إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحمد الله سبحانه وتعالى وعونه وفضله وتوفيقه، نواصل قراءتنا لأصول في التفسير من علامة العثيمين رحمه الله تعالى. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث اليوم عن القصص، يعني القصص في القرآن العزيز. فقال المؤلف رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية أو عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. Donc on poursuit بإذن الله سبحانه وتعالى notre lecture de la risala du noble cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, fondement du tafsir. Donc les fondements du tafsir. On est arrivé donc aujourd'hui au chapitre concernant les histoires dans le Coran. Al-Qasas. Taïeb. Donc Al-Qasas, qu'on va traduire par les histoires dans le Coran al-Karim. Donc il faut savoir que Al-Qasas ou Al-Qasas ou Al-Qasu, dans la langue arabe, c'est le fait de suivre la trace, le fait de suivre une trace, ou de l'examiner, ou de la scruter, de la pister, d'accord? Pister une trace. Ça, c'est dans la langue arabe. Mais dans la terminologie religieuse, al-qasasu, c'est al-ikhbar, la transmission d'une information. C'est la transmission d'un événement ou d'une histoire constituée de plusieurs étapes. D'accord? Ça, c'est dans la terminologie religieuse, al-qasasu. C'est la transmission d'un événement ou d'une histoire constituée de différentes étapes qui se succèdent les unes après les autres. Voyez, هذه هي القصص. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه قال: فلو قلت زيد قائم، زيد قائم، فهذه هل هي قصة؟ لا، ليست قصة. ولو قلت سافر زيد إلى مكة فنزل في القرية الفلانية لمدة يوم ثم ركب منها ثم ركب منها إلى مكة فنزل إلى البلد الفلاني كذا وكذا يوما صارت هذه قصة صارت هذه قصة. طيب إذن لو قلت زيد مثلا زيد قائم أو زيد آت أو زيد كذا وكذا هذه ليست قصة. القصة هي أنك تقول مثلا سافر زيد إلى مكة فنزل في القرية لمدة كذا وكذا ثم ركب منها متجها إلى مكة متجها إلى المدينة فنزل إلى البلد الفلاني كذا وكذا يوما أو يومين أو ثلاثة صارت هذه قصة. Donc, étant donné la définition que l'on a donnée, القصة ou القصص dans la terminologie religieuse, on a dit la transmission d'un événement, d'une histoire constituée de différentes étapes se succédant les unes après les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis Zayd est debout, Zayd est debout, est-ce qu'on peut dire que c'est une qissa? Est-ce qu'on peut dire que c'est une qissa, une histoire? Zayd est debout. On peut dire que c'est une qissa? Non. Parce qu'on a dit, il faut que le récit ou l'histoire soit constitué de plusieurs étapes. Donc Zayd est debout, point final. C'est pas une histoire ça. Vous voyez? Non. Donc pour que ça devienne une histoire, il faudrait que tu dises par exemple, Zayd a voyagé de Mecca. Il est descendu ou il est entré dans telle ou telle ville ou village. Il est resté un jour. Après, il est remonté sur son cheval et il est parti en direction de la Mecque. Il est descendu dans telle ou telle ville ou village. Il est resté deux jours, trois jours, quatre jours. Il est reparti, etc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une qissa. Ça, c'est une qissa. Pourquoi on a dit le fait de transmettre une histoire qui a donc plusieurs étapes, et qui se suivent les unes après les autres. طيب نعم إذن هذه قصة. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها على الواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. Puis dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, les histoires du Coran sont les histoires les plus véridiques qui soient. Sont les histoires les plus véridiques qui soient. Et cela en vertu de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, de la sourate al-Nisa, de la sens rapprochée, et qui est plus véridique qu'Allah en histoire, en parole. Et cela donc, pourquoi Allah c'est le plus véridique dans ces histoires? Eh bien, tout simplement parce que ces histoires qu'il nous raconte, ces récits, sont parfaitement conformes à la réalité. Sont parfaitement conformes à la réalité. Et on dit, ce n'est pas comme les histoires que les êtres humains peuvent des fois raconter, même sur des événements qui se sont réellement produits, mais il se peut que l'être humain, lui, oublie des choses dans son histoire, ou qu'il rajoute des choses qui ne se sont pas produites, ou il va inverser certains trucs, il va se tromper de nom de personne, par exemple. Vous voyez ? Alors que les histoires qu'Allah Jalla wa Ala nous raconte dans le Coran al-Karim sont parfaitement conformes à la réalité et aux faits réels qui se sont déroulés. طيب فقال الشيخ العثيمين في قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا أو حديثا والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي يعني لا أحد، لا أحد أصدق من الله حديثا. وإن ادعيت فأتي بأحد أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع كما قال الشيخ، وهذا هو الصدق. هذا هو الصدق، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. Donc dans le verset où Allah dit dans le sens rapproché, et qui est plus véridique qu'Allah en narration ou en récit? Ici, en apparence, c'est une simple question. En apparence, c'est une simple question. Mais cette question qui nous est posée par Allah tabaraka wa ta'ala, elle renferme deux choses. Elle renferme non seulement une négation, mais aussi un défi. Mais aussi un défi. Pourquoi? Premièrement, la négation. Donc c'est une question, je dirais, négationniste. Pourquoi? Eh bien, Allah, il te dit à travers cette question, il te dit que personne n'est plus véridique que lui en récit. D'accord? Donc la question, elle renferme en vérité une négation qui est personne n'est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala en parole. Et on a dit aussi, ça renferme quoi? Un défi. Comment ça un défi? Eh bien, c'est comme si Allah te disait, et si tu prétendais, si jamais tu prétends qu'il y a quelqu'un de plus véridique qu'Allah, eh bien, amène-le. Allez, trouve-moi quelqu'un, amène quelqu'un qui serait plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est en même temps une négation, en même temps un défi. Vas-y, cherche. Tu ne trouveras jamais de quelqu'un, jamais quelqu'un qui serait plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela, encore une fois, car toutes les histoires qu'Allah jalla wa ala nous a racontées sont parfaitement et totalement et absolument conformes aux faits et conformes à la vérité. Et c'est ça la véracité. C'est ça que l'on appelle As-sidqu. C'est quoi As-sidqu? La véracité. Hein?
C'est une affirmation, on peut dire que l'histoire est vraie.
Là, As-sidqu, la véracité, c'est le fait de dire quelque chose et cette chose-là, elle est totalement en adéquation avec la réalité. C'est ça la véracité. D'accord? Quelqu'un qui est véridique, qui est sadiq, tout ce qu'il va sortir de sa bouche sera totalement en concordance avec la réalité, avec les faits. Donc la véracité, c'est ça. La véracité, c'est de donner une information qui est conforme à la réalité. D'ailleurs, alhamdulillah. Puis il dit le cheikh, et les meilleures histoires sont celles du Coran, sans aucun doute. Car Allah a dit, dans le sens rapproché, nous te racontons les meilleures histoires à travers ce que contient ce Coran. Ahsana al-Qasas. Les meilleures histoires. Pourquoi c'est les meilleures histoires? Eh bien, parce qu'elles contiennent les plus hauts degrés de la perfection. Que ce soit dans la forme, yani la rhétorique, l'éloquence, ou dans le fond, au niveau de ce que ces histoires contiennent comme signification, comme sens, comme enseignement, comme leçon, comme intérêt scientifique. Taïeb. ثم قال الشيخ وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. نعم. فغير قصص القرآن مثل ما جاءت به سنة فهو مثل القرآن من حيث الصدق، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق، فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق، فيه عبرة وفيه منفعة. وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أشياء كثيرة، لكن نحن الآن نتكلم عن علوم القرآن فقط. نعم. بيلج للشيخ les histoires les plus utiles. Donc non seulement c'est les histoires les plus véridiques, les histoires les meilleures, les plus belles, c'est ce qui comporte les meilleures significations, les meilleures morales, mais ce sont aussi les histoires les plus profitables. Car Allah il dit dans le sens rapproché, certes, il y a dans leurs histoires une leçon pour les doués d'intelligence. Ça y est ? Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que ces histoires, elles ont un impact qui est énorme sur la réforme des cœurs, sur la purification des actes et sur la réforme des comportements et de la moralité. Ça y est ? Il dit le cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, entre parenthèses, il y a d'autres histoires également qui ne sont pas dans le Coran et qui sont tout autant véridiques. C'est quoi ces histoires? Eh bien, c'est celles que nous a rapportées le prophète dans la Sunna, alayhi salatu wa salam. Donc, c'est ahadith comportant ces histoires-là que l'on retrouve dans les hadiths authentiques sont au même titre que le Coran au niveau de la véracité. À condition, bien sûr, que le hadith soit authentique. Et ce sont également donc les meilleures histoires provenant des créatures et des histoires les plus bénéfiques de la création. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté et nous a raconté parmi notamment les informations et les transmissions des histoires des descendants d'Israël, eh bien ceci est la vérité et ceci est véridique. Et ces choses-là contiennent des leçons et des intérêts scientifiques. Vous voyez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté à sa communauté de nombreuses choses. Et si le hadith, encore une fois, il est authentique, eh bien, bien sûr, ces histoires-là sont véridiques et conformes totalement à la réalité. Mais, il dit le cheikh, aujourd'hui, nous parlons seulement de la science relative au Coran al-Karim. ثم قال الشيخ وهي ثلاثة أقسام أي القصص في القرآن ثلاثة أقسام الأول قسم عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين في جل الشيخ رحمه الله تعالى les histoires dans le Coran sont de trois catégories. La première, la catégorie des histoires concernant les prophètes et les messagers. Celle concernant les prophètes et les messagers, alayhumus salam. Taïeb, et tout ce qu'ils ont vécu comme péripéties avec les croyants, hein, ainsi que face aux mécréants. Vous voyez? Donc ça, c'est la première catégorie d'histoire que l'on retrouve dans le Coran, celle concernant les prophètes et les messagers, alayhimus salam. الثاني قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. La deuxième catégorie, les histoires concernant certains individus ou certains peuples. Et donc, dans ces histoires-là, on retrouve ce qu'ils ont vécu. Hein, et à travers ces choses-là, on tire bien sûr des enseignements et des leçons. Donc Allah Jalla wa Ala nous a transmis ces choses-là à travers ces histoires. Donc il y a énormément d'exemples dans le Coran al-Karim, parmi eux l'histoire de Maryam, ou celle de Luqman, ou celle de cet homme dans la sourate al-Baqara, hein, qui a traversé ou qui est arrivé dans ce village, ou cette ville qui était totalement déserte et dévastée, ou l'histoire de Dhil-Qarnayn, celle de Qaroun, celle des gens de la caverne, celle des gens de l'éléphant, celle des gens de l'Ukhdout, et autre que cela. Vous voyez? Donc j'invite tous ceux qui voudraient y aller approfondir et étudier ces histoires-là et en tirer bien sûr les leçons énormes se trouvant dans ces récits, de revenir au tafsir de ces versets-là. Donc, notamment, une sourate qui est courte, mais dont on peut tirer de très grandes leçons, notamment par rapport à l'histoire des gens de l'éléphant, Ashab al-Fil, dans la sourate al-Fil, ou Ashab al-Ukhdud, les gens de l'Ukhdud, les gens des tranchées, que l'on retrouve dans la sourate al-Buruj. D'accord? Donc, ceux également qui voudraient écouter le tafsir, traduit en français, peuvent les retrouver dans le site Le Sentier du Salut, hein, dans le chapitre du tafsir du Coran, et vous avez certaines sourates qui ont été expliquées. Bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Faqala shaykh rahimahullah an qissati hadha ar-rajul marra ala qarya wa hiya khawiya ala urushiha. قال كانت هامدة يابسة فقال هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن ماتت فأراه الله ذلك فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وهي 100 سنة لأن الوقت يذهب إذا لم تكن الروح في الجسم حالة حلولا تاما ذهب الوقت وأنت لا تشعر ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكأنها دقيقة واحدة والمغمى عليه أشد وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما علم الميت كذلك الميت كذلك من باب أولى قال لبثت يوما أو بعض يوم أنه الله أماته في أول النهار وأحياه في آخره فقال إما يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم. فقال الله جل وعلا بل لبث 100 عام. سبحان الله، 100 عام ولم يتغير الرجل، ما زال شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ. Donc ici, le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il nous parle de l'histoire de cet homme, donc l'histoire que l'on retrouve dans la sourate Al-Baqarah, donc qui s'est retrouvé dans ce village, ou cette ville déserte, dévastée, détruite. Vous voyez, plus rien, qui ne vivait, plus aucune vie, tout était sec, détruit, dévasté. Qu'est-ce qu'il a dit l'homme ? Il a dit Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtih. Comment Allah tabaraka wa ta'ala va faire revivre tout ça après sa mort? Va faire revivre tous les gens qui habitaient là, dans ce village, dans cette ville, qui sont tous donc détruits. Comment Allah jalla wa'ala va tous les faire revivre? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il lui a montré cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la mort. Il lui a donné la mort. Et il est resté comme ça pendant 100 ans. 100 ans. Et après 100 ans, Allah Jalla wa'ala lui a redonné la vie. Et Allah il lui a dit, Kam labith? Yani, combien de temps tu as demeuré ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Labithu yawman aw ba'd yawm. Je suis resté un jour. Ou une partie d'un jour. Alors qu'il est resté combien? 100 ans. Allah Akbar. 100 années. Pour quelle raison il n'a pas senti ces 100 années? Est-ce que c'est normal qu'il ne les a pas sentis? Oui, c'est normal. Parce que quand l'âme n'est pas complètement à l'intérieur de ton corps, n'est pas totalement fusionnée avec ton corps, si je puis dire, eh bien le temps y passe et tu ne sens rien. Exemple, celui qui dort. Celui qui dort, il peut dormir, il dit le cheikh, 2 heures, 3 heures, je dirais même plus, 6 heures, 8 heures. Eh bien, sans qu'il ne sente que des heures se sont écoulées. Il aura même l'impression qu'il a peut-être dormi une seconde ou une minute, ou quelques minutes, c'est vrai ou pas? Quand on se réveille le matin, on n'a pas l'impression d'avoir dormi des heures. On a l'impression d'avoir dormi seulement quelques minutes. Imaginez-vous. Que dire alors de celui qui a perdu connaissance, qui a fait un malaise, qui a perdu connaissance, ou qui est dans le coma peut-être, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est pire encore. Également celui qui doit subir une opération et qui nécessite une anesthésie générale. Des fois l'opération peut durer des heures et des heures. Pourtant, lorsque le patient il se réveille, on dirait qu'il est resté même pas une minute. Hein, pour ceux qui ont subi des opérations et des anesthésies générales, ils savent très bien cela. Ils ont été endormis, ils ne sont même pas rendus compte qu'ils se sont endormis. Et quand ils se sont réveillés, ils ont eu l'impression d'avoir dormi quelques minutes, alors qu'ils sont restés sur la table d'opération pendant des heures. Taïeb? Non. Donc, le mort, c'est pareil. Le mort, c'est pire encore. Hein? Celui qui meurt, c'est pire, dit le cheikh. Donc, Allah, il lui a dit, combien de temps tu as demeuré? Il a dit, je suis resté un jour ou une partie des jours, alors qu'il est resté 100 ans. Regardez, subhanallah, 100 ans, lui, il croyait qu'il est resté genre un jour, voire moins. Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est cela, car Allah, il a fait mourir au début du jour, et il a fait revivre à la fin de la journée. D'accord? Il y en a 100 ans après, mais à la fin de la journée. D'accord? Donc imaginez-vous, Allah Jalla wa'ala l'a fait mourir le premier jour, donc le matin. Et 100 ans après, lorsqu'Allah Jalla wa'ala l'a ressuscité, il l'a ressuscité, mais à la fin de la journée. Donc lorsqu'il s'est réveillé, entre guillemets, à la fin de la journée, il a cru qu'il a passé combien? Une journée. Ce qui se rappelle peut-être que du matin. Alors que 100 ans, en fait, c'était écoulé. Allahu Akbar. Ça y est? Donc, soit une partie d'un jour, s'il a cru que c'était du matin au soir, ou soit un jour, si il croyait que c'était le deuxième jour. Allahu ta'ala a'lam. D'accord? Donc, Allah il lui dit: Bel labith tami'at'am. Non, au contraire, tu es resté là pendant 100 ans. Subhanallah, 100 ans. Et écoutez bien, 100 ans. Le corps de l'homme n'a pas changé, n'a pas bougé. Ça veut dire, il n'a pas perdu ses cheveux, hein? Il n'a pas grandi, il n'a pas changé, il n'a pas grossi. Non. Pendant 100 ans, Allah Jalla wa Ala a fait que son corps soit resté intact. Subhanallah al-Azim. نعم. ثم قال القسم الثالث قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. La troisième catégorie d'histoire dans le Coran, celle qui concerne certains événements et certains peuples à l'époque du prophète. Des événements, des peuples à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tels que l'histoire de la bataille de Badr, ou celle de Uhud, ou celle de Al-Hazab, ou l'histoire de Bani Qurayza, ou Bani Nadir, ou celle de Zayd ibn Haritha, ou celle de Abi Lahab, Tabbat yada, hein? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Il y a autre que cela parmi les histoires des événements ou des peuples qui donc étaient à l'époque et au temps de Nabi alayhi salatu wassalam. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها الأولى بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. Maintenant, il dit le cheikh, il va mentionner les sagesses et les leçons importantes que l'on retrouve dans les histoires dans le Coran. La première chose, c'est le fait qu'Allah Jalla wa Ala t'expose sa sagesse dans ce que ces histoires contiennent. Il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché, certes, est venu à eux ce que des informations ou les informations qui comportent ce qui les empêche de m'y croire. Hein? Sont venus à eux des histoires, des renseignements, des informations qui sont là pour les empêcher de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Hikmatun baligatun, une sagesse immense et une sagesse efficace. Mais les avertisseurs ne leur ont pas été profitables. Les avertisseurs ne leur ont pas été profitables. Ça y est. الثانية بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. Deuxième chose, l'exposé de la justice d'Allah tabarak wa ta'ala. À travers ces histoires, Allah jalla wa ala nous montre, nous indique sa justice parfaite à travers le châtiment et le fait qu'Allah il punit les yani les négationnistes, les mukadhibin, ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges les messagers et les prophètes. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous montre sa justice à travers ces histoires. Il dit Allah jalla wa ala de le sens rapproché, et nous n'avons pas été injustes envers eux, mais c'est eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et leur divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala ne leur ont servi à rien du tout lorsque l'ordre de ton Seigneur est arrivé. Ça y est. الثالثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Troisième chose que l'on tire à travers ces histoires dans le Coran, l'exposé de la grâce d'Allah Jalla wa Ala à travers la récompense à travers sa rahma en faveur des croyants. Dans certaines histoires, Allah Jalla wa Ala nous expose comment il a sauvé les croyants et comment il les a préservés du châtiment. Qu'est-ce que dit Allah Jalla wa Ala de la sourate Al-Qamar? Illa ala Lut, excepté la famille de Lut. Taïeb, nous les avons sauvés bisahar, c'est-à-dire à la fin de la nuit. Ni'matan min indina, en guise de bienfait de notre part, c'est ainsi que nous rétribuons ceux qui y sont ou celui qui est reconnaissant.
Rabi'a tasliyatun nabi sallallahu alayhi wa sallam amma asabahu min al-mukaththibin lah liqawlihi ta'ala وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
Quatrième chose, on retrouve dans ces histoires également le fait que Allah Jalla wa Ala réconforte et met dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam la joie et le réconfort par rapport hein, à ce qu'il a subi de la part des mécréants et de ceux qui l'ont traité de menteur. On a par exemple donc la parole d'Allah Jalla wa Ala, le sens rapproché, et si il te traite de menteur, certes, ceux qui sont venus avant eux ont aussi traité de menteur leurs messagers. Lorsque leurs messagers sont venus avec les preuves, avec les écrits, avec le livre illuminant. Qu'est-ce que dit Allah? Ensuite, nous avons châtié ceux qui ont mécru. Nous avons puni ceux qui ont mécru. Hein? Et comment est ma punition? Hein? Terrible sa punition. Al-Khamisa. ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Cinquièmement, on tire quoi de ces histoires? Eh bien, on en tire le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il encourage les croyants et il les raffermit dans la foi et dans le fait de faire augmenter cette foi. Car dans certaines histoires, les croyants lisent comment Allah Jalla wa Ala
a sauvé les croyants avant eux. Il leur a donné la victoire lorsque Allah Jalla wa Ala leur avait ordonné de combattre et de lutter. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate Al-Anbiya? Et nous lui avons répondu et nous l'avons sauvé de l'angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. De qui Allah y parle ici? La sourate Al-Anbiya, les prophètes. Et nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de l'angoisse.
Moussa.
Là, Younous, alayhi salam. On parle de Younous, alayhi salam. D'ailleurs, également, Allah a dit, et nous avons certes envoyé avant toi des messagers à leur peuple. Ils sont allés à eux avec les preuves et nous châtiâmes ceux qui ont fait preuve de mécréance. Et cela yani, était une obligation pour nous que de sauver les croyants. Yani, Allah Jalla wa Ala s'oblige à lui-même de sauver les croyants. Donc lorsque le lecteur il lit ces versets-là, ces histoires dans lesquelles Allah Jalla wa Ala nous montre comment il a sauvé les croyants des peuples précédents, eh bien, à travers ça, Allah Jalla wa Ala nous redonne la force, nous fait augmenter la foi et nous raffermit sur la foi, voyez, et nous motive à continuer sur ce chemin. السادسة تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Sixième chose, Allah Jalla wa Ala, à travers ces histoires, il met en garde les mécréants. Il met en garde les mécréants contre le fait de persister sur leur mécréance. Allah Jalla wa Ala dit dans le sens rapporté du verset, n'ont-ils pas parcouru la terre et n'ont-ils pas vu comment ou n'ont-ils pas vu comment elle a à la fin de ceux qui ont vécu avant eux, comment Allah Jalla wa Ala les a détruits et aux mécréants et à tous les mécréants yani le même sort. C'est-à-dire que à chaque temps, Allah Jalla wa Ala fait subir le même sort aux mécréants. Wallah al-musta'an. Tayyib. As-sabi'a, ithbat risalat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna akhbar al-umam as-sabiqa la ya'lamuha illa Allah Jalla wa Ala. Li qawlihi ta'ala, tilka min anba'i al-ghayb nuhiha ilayk. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم يوم نوح قوم نوح وعاد وثمود أعيد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. Et enfin, septième chose que l'on tire de ce hadith, des histoires dans le Coran, l'affirmation de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les informations des communautés précédentes, le prophète ne peut pas les inventer. D'accord? Donc les histoires dans le Coran que le prophète nous a transmis par le biais de Jibril alayhi salam, ces histoires-là du passé, eh bien seul Allah Jalla wa Ala les connaît. Le prophète ne peut pas les inventer, ne peut pas les connaître. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ceci fait partie des informations de l'invisible que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Patiente donc. Certes, la fin heureuse appartient aux pieux. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? N'est-il pas parvenu à vous l'information de ceux avant vous, le peuple de Nuh, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, Et ceux qui sont venus après eux, seul Allah Jalla wa Ala les connaît. Voyez ? Donc, ceci est là. L'une des preuves que le Coran est bien la parole d'Allah tabarak wa ta'ala et non la parole qui a été écrite par un être humain ou par le prophète ou par le sahaba ou par je ne sais qui encore. Voyez ? Alhamdulillah, naktafi bihada bi'idhnillah azza wa jal. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته